Catherine Pex est biologiste et réalisatrice de documentaires. Le fruit de sa recherche, l'ancêtre de la pomme, de toutes les pommes, la toute première pomme au monde. Catherine Pex a en quelque sorte déniché le jardin d'Éden.
Oui, j'ai retrouvé le jardin d'Éden au Kazakhstan, dans les montagnes célestes. Ce sont des forêts qui se trouvent entre 800 et 2000 mètres d'altitude, voilà. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être accompagnée par un homme brillantissime, un Kazakh, qui tout seul s'est occupé sa vie entière à la préservation de cette espèce qui est unique au monde.
Le spécimen s'appelle la Malus siversii. Le jardin d'Éden, lui, se situe à la frontière de la Chine et du Kazakhstan, dans les montagnes du Tian Shan, de véritables forêts de pommiers sauvages sur 1600 km.
C'est un jardin d'Éden, pourquoi ? Parce qu'on y trouve tout simplement l'origine de la pomme. C'est-à-dire que dans ce jardin qui, en fait, sont des forêts, on trouve des pommes, et ces pommes sont issus des pommiers qui sont à l'origine de toutes les pommes cultivées qu'on trouve dans le monde.
En 2005, Catherine Pex part à la rencontre de l'agronome et académicien kazakh Emak Djongaïliev.
Il a fait ses études en URSS, il est devenu agronome, généticien bien sûr à l'ancienne. Il est retourné au Kazakhstan et là, toute sa vie, il a parcouru les forêts, répertorié, essayé de comprendre, il a fait une thèse. Voilà, c'est le chercheur sans lequel aujourd'hui on ne saurait pas qu'il existe quelque part sur Terre le Jardin d'Éden, puisqu'il aurait aujourd'hui disparu.
C'est en 2010 que le séquençage complet du génome de la pomme domestique, la nôtre, a définitivement prouvé son origine kazakh. En 1943, le biologiste russe Nikolai Vavilov mourra en prison d'avoir défendu cette thèse. Emak Djongaïliev la défendra à son tour et protégera le site en obtenant de haute lutte 27 patentes.
Je l'ai rencontré, j'ai eu cette chance, je l'ai beaucoup cherché. Je l'ai beaucoup cherché, dès j'ai su qu'il existait, qu'il était susceptible d'avoir entre 85 et 100 ans. Je ne savais pas si j'arriverais à le retrouver. Je l'ai retrouvé après de multiples aventures exceptionnelles. Je l'ai retrouvé et là, je pense que c'est la plus belle rencontre de ma vie. J'ai rencontré un homme d'une probité, d'une exigence et d'une dévotion à la nature et d'un engagement politique. L'engagement qui consiste à dire, à partir du moment où je trouve un patrimoine qui pourrait être un patrimoine mondial et qui pourra résoudre des problèmes dans le futur, il faut faire tout ce qu'on peut, même au risque de sa vie. Il a failli aller au goulag.
Une variété inouïe et surtout, la pomme originelle est résistante aux maladies, ce qui n'est plus le cas de nos pommes de supermarché.
Le passé, bien évidemment, est un enseignement du futur, mais là, en l'occurrence, le passé peut être une alternative pour l'arboriculture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'arboriculture de la grande consommation, c'est un nombre extrêmement réduit de variétés qui ont été choisies. Elles avaient peut-être certaines qualités gustatives, peut-être, en tout cas, elle n'était pas résistante aux maladies. Alors, en quoi ce patrimoine est important ? D'abord, il offre une biodiversité qu'on avait totalement oubliée. Il peut y avoir 1 million de variétés possibles, puisque le pommier est un arbre qui se reproduit sexuellement. Donc, chaque pépin qui germe est une nouvelle génération. Donc, il y a ça qui est important. Et puis, parmi cette extraordinaire richesse de gènes, on trouve des gènes de résistance qui pourraient aujourd'hui éviter qu'on ait des pesticides pour lutter contre la tavelure, contre le feu bactérien, l'oïdium et autres maladies qui infestent littéralement le pommier. Aujourd'hui, il y a plus de 36 traitements sur certaines variétés cultivées industriellement.
Mais pourquoi cette pomme ancestrale non traitée est-elle si grosse et si sucrée et forme quasiment une forêt, une sélection naturelle grâce aux ours? Leurs gourmandises leur ont fait préférer les plus grosses et les plus sucrées dont ils ont disséminé les pépins grâce à leur déjection.
Il faut imaginer, admettons, il y a à peu près 1 million d'années, les ours se retrouvaient devant une forêt où il y avait beaucoup de pommes, mais des petites. Ils ont commencé à les manger, ils se sont rendus compte qu'il y avait une pomme qui était un petit peu plus sucrée, donc ils l'ont mangée. Ensuite, ils ont pris l'habitude de revenir sur cet arbre. Comme les pépins sont passés au travers du tube digestif, les pépins ont germé beaucoup plus rapidement. Donc, des nouveaux bébés, pommiers plus sucrés ont commencé à apparaître, etc. etc. Et tout ça, ça s'est passé pendant des millions d'années. Et aujourd'hui, on arrive à une forêt dans laquelle il y a des fruits qui sont gros et sucrés. Donc en fait, l'ours a été le premier sélectionneur de pommes sucrées, c'est-à-dire la gourmandise.
Le mois prochain, l'école Dubreuil, école de la ville de Paris située dans le bois de Vincennes, plantera, c'est une première en France, en plein air, le tout premier pommier ancestral.
Aujourd'hui, il faut trouver des solutions éthiques et correctes pour faire l'implantation de ce matériel et pas fonctionner dans la contrebande. Le travail que nous voulons faire, en tout cas avec notre association, c'est de remettre d'aplomb les choses, mais d'une façon convenable et surtout bioéthique, c'est-à-dire qu'elle doit responsabiliser le Kazakhstan, l'obliger à prendre soin de son patrimoine, contre ça, avoir éventuellement des choses qui nous viennent de chez eux, mais il faut que ce soit un partenariat bioéthique entre les deux pays.
Catherine Pex a fondé l'association Alma, la pomme en kazakh, pour préserver justement ce patrimoine de la Malus Siversii.
Le Kazakhstan est le centre de l'origine de la pomme. Almaty, l'ex-capitale du Kazakhstan. Almaty, ça signifie étymologiquement là où il y a plein de pommes. Alma, en kazakh, ça veut dire pomme. Donc Almaty, là où il y a plein de pommes.
La pomme originelle pourrait sauver l'espèce. Mais malheureusement, depuis la disparition des Makhtchanghaliyev, ses travaux ont été interrompus et ses forêts sauvages, ce jardin d'Éden, n'est plus préservé. D'où la nécessité de mobiliser la communauté internationale et le gouvernement kazakh. C'est toute la démarche entreprise aujourd'hui par la biologiste et documentariste Catherine Pex.